Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Monsieur Vladimir Steyer, qui est le metteur en scène d'une pièce.
Bonjour.
Donc la pièce que vous avez faite s'appelle Scarlett et Novak. Elle est tirée d'une nouvelle d'Alain Damasio, qui s'appelle elle-même Scarlett et Novak. Donc c'est une pièce de théâtre qui explore la dépendance aux nouvelles technologies, en particulier les smartphones. Novak, un adolescent, est poursuivi par des voleurs qui du coup lui volent son téléphone, abritant son intelligence artificielle, appelée Scarlett. Lorsqu'il se fait voler son téléphone, Novak se retrouve seul et désorienté. Avec l'aide d'une jeune hackeuse, il découvre d'autres réalités au-delà des écrans, remettant en question sa dépendance à la technologie et explorant les pièges de la vie numérique contemporaine. La pièce offre une réflexion sur les habitudes numériques et invite le public à repenser sur son rapport à la technologie.
On a quelques questions pour vous. La première, quels défis avez-vous rencontrés pendant la création de la pièce et comment les avez-vous surmontés ?
Le premier défi, c'était la question de l'adaptation d'une nouvelle. Voilà, en fait, le texte d'Alain Damasio, il fait 10 minutes au total, donc ce qui est beaucoup trop court pour un spectacle de théâtre. Et donc, il a fallu créer plein de choses avant et après cette nouvelle. Voilà. Comme c'était dit dans le résumé, la nouvelle, elle se concentre sur la course de Novak, poursuivie par des agresseurs et qui vont lui supprimer non seulement les données de son téléphone portable, mais surtout lui supprimer l'intelligence artificielle qu'elle abrite, Scarlett, qui est devenue sa meilleure amie, sa confidente, voire son amoureuse. Et donc, nous, on a essayé de créer avant ça toute un peu une journée type de ce que pourrait être la relation entre Novak et Scarlett. Donc, comment Novak s'est progressivement coupé du monde extérieur pour vivre uniquement avec Scarlett qui répond à tous ses besoins. Donc ça, c'était le premier défi, c'était donc plutôt un défi, on va dire, littéraire. Et ensuite, le deuxième défi, ça a été comment on crée un univers numérique au plateau. Voilà, comment le théâtre, qui est un art plutôt archaïque, ancien, comment on peut mettre de la nouvelle technologie dedans et comment on peut faire dialoguer des comédiens avec de la vidéo, avec des projecteurs numériques, LED. Donc c'était toute la difficulté, c'était de trouver le bon équilibre entre le jeu et la technologie.
Merci. Et la deuxième, avez-vous des anecdotes intéressantes ou amusantes des coulisses que vous pourriez partager avec nous ?
Qu'est-ce qu'il y a eu comme anecdote rigolote dessus ? C'était surtout, donc le comédien, il est sur un tapis roulant. Et le jour de la générale, en fait, le tapis roulant s'est emballé tout seul. La générale, en fait, c'est la dernière répétition qu'on fait avant d'avoir du public. Et d'un coup, il s'est mis à s'emballer. Et on a été obligé d'arrêter notre répétition en flippant qu'il soit vraiment cassé et qu'on ne puisse pas faire le spectacle le lendemain. Mais heureusement, en fait, c'était le comédien qui avait coincé la télécommande qui guide ce tapis roulant, et donc ça a pu s'arrêter. Quoi.
Merci, on va laisser Adrien prendre la place.
Pourquoi avoir choisi le thème de l'IA ?
Alors, j'ai beaucoup travaillé dans mes spectacles précédents sur la place d'abord que les écrans avaient dans nos vies. Et donc mon premier spectacle que j'avais créé en 2010, ça s'appelait Débris, c'était une pièce d'un auteur anglais, Denis Kelly, et ça parlait de la manière dont la télévision pouvait influencer les imaginaires des adolescents. Et sauf que ça, c'était en 2010, et que maintenant on est en 2023, et la télé, c'est complètement has-been et ringard pour vous. Maintenant, c'est vraiment le smartphone, l'Internet. Et j'avais envie de questionner la place que le numérique a dans nos vies, et donc de partir de quelque chose qui est présent maintenant. On voit avec ChatGPT, DALL-E, Midjourney, ces outils-là d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça fait si on pousse ça à l'extrême et que c'est carrément eux qui prennent des décisions pour nos vies, quoi. J'avais envie de réfléchir à ça. Après, je suis un père aussi d'un enfant de 8 ans, et je vois à quel point il est fasciné par les écrans, et donc ça me questionne, quoi. Est-ce que les écrans, c'est plus intéressant que la vie extérieure, ou comment on peut faire un mélange des deux, quoi.
Tous vos spectacles sont orientés sur la science-fiction ?
Non, pas tous. Non, c'est la première fois que je faisais un spectacle de science-fiction, même de ce qu'on appelle une dystopie. Donc, c'est quelque chose qui se passe dans le futur, avec des transformations par rapport à notre monde actuel. Et non, c'est la première fois que je faisais ça. Voilà, par exemple, mon spectacle précédent, qui s'est joué d'ailleurs ici à l'intérieur du collège, s'appelait Prof Turing, et c'était un spectacle sur un mathématicien qui a inventé le concept d'intelligence artificielle dans les années 50. Voilà, et qui posait la question, est-ce que les machines peuvent imiter l'homme ? Voilà, mais sinon, j'ai monté aussi des textes classiques comme Huit clos de Jean-Paul Sartre. Et là, c'était la première fois que je me plongeais dans ce monde-là.
Selon vous, en quelle année ça se passe, votre scène ?
Alors, à un moment dans le spectacle, on voit que Djokovic remporte l'US Open à l'âge de 63 ans. Donc, si je ne dis pas de bêtises, il a 36 ans actuellement. Donc, je te laisse faire le calcul. Trentaine d'années, tu vois, entre 20 et 30 ans, quoi.
Votre spectacle est destiné à un public d'ados ?
Ouais, en partie, oui. D'abord, c'est en tout cas Alain Damasio, il a écrit la nouvelle à destination des adolescents. Après, je trouve que c'est un peu hypocrite de dire que la dépendance aux smartphones et aux nouvelles technologies, elle concerne que les ados, parce que je pense que les adultes sont concernés, même les plus âgés. Enfin, je sais pas comment sont vos grands-parents avec leur smartphone. Et donc, j'espère que mon spectacle s'adresse à tout le monde, peu importe l'âge, parce que c'est toujours facile de dire... Ah, c'est les jeunes qui font tout mal. Alors que souvent, en plus, et notamment les enfants, enfin, vous êtes collégiens, mais à l'école primaire ou à l'école maternelle, les enfants qui sont scotchés au téléphone de leurs parents, ils font que les imiter. Donc, c'est pour les deux, quoi.
Est-ce que votre spectacle veut faire passer un message de prévention au sujet de l'IA ?
Alors, de prévention, non, pas vraiment, parce que moi, c'est plus se questionner. Voilà, quand je fais un spectacle, c'est que je n'ai pas de réponse et je n'ai pas de message à apporter, mais c'est plus de réfléchir à travers une fable. Là, en l'occurrence, c'est la fable de Novak qui se retrouve incapable de rien faire sans l'IA. La prévention, je ne sais pas trop, quoi, parce que je trouve que ces nouveaux outils, ChatGPT ou Midjourney, ça peut être génial, à condition de bien les utiliser et que ça ne prenne pas le pas sur l'humain. Donc moi, c'était, oui, la prévention, c'est, oui, attention, n'oublions pas que ce n'est qu'un objet et qu'il faut que ce soit nous, qu'en soyons les maîtres et non pas eux qui dirigent nos vies. Voilà, ça pourrait être ça, le message, mais c'est pas en tout cas de mettre le portable à la poubelle, ce qui est un peu sous-entendu dans la nouvelle d'Alain Damasio. Moi, je pense, de toute façon, c'est là, ça fait partie de notre monde, donc c'est comment on l'utilise de la manière la plus intelligente.
Y a-t-il eu des contraintes pour le script, le décor ?
La difficulté, c'était comment... Donc, dans le texte d'Alain Damasio, lui, il parle de bright phone. Voilà, il n'emploie pas le terme de smartphone. Et je pense qu'il ne l'emploie pas parce que donc, dans smartphone, il y a l'idée que c'est un téléphone intelligent. Lui, il transforme ça en bright phone, donc un téléphone qui brille, comme les écrans qui brillent sur nos visages. Et donc, c'était comment on recrée ça sur une scène de théâtre. Et donc, j'ai eu l'idée de faire ce cube dans lequel Novak est enfermé, et donc c'était comment réaliser ce cube et qu'il puisse y avoir de la vidéo sur les quatre faces de ce cube. Voilà, c'est ce qu'Alain Damasio appelle le technococon, c'est-à-dire comment la technologie nous enferme dans un cocon qui est à la fois hyper rassurant, mais qui est très aliénant en même temps, donc qui nous oppresse, qui nous enferme et qui nous coupe du monde extérieur. Donc c'était trouver comment, avec peu de moyens, parce que la technologie, ça coûte... cher, comment on peut faire un décor de théâtre avec beaucoup de vidéos, beaucoup d'éléments technologiques. Et donc, j'ai eu la chance de travailler avec la Comédie de Saint-Étienne, qui a des ateliers de construction de décors. Et donc, on a fait plein de tests avant le spectacle. Donc, sur quelle surface projeter. Donc là, en l'occurrence, c'est un tulle. Donc, c'est un tissu qui, à la fois, prend la vidéo et, en même temps, on peut voir à travers, en fonction de comment on éclaire, trouver quel type de vidéoprojecteur pourrait convenir. Et au final, c'est les vidéoprojecteurs que vous avez dans vos salles de classe, donc ceux qui sont très proches du tableau. Et donc, ça a été un travail qui a pris plusieurs mois et par élimination, par essai, et j'ai eu la chance d'être accompagné par un gros théâtre pour faire ça.
Et du coup, ça vous prend combien de temps pour faire en tout d'une pièce de théâtre du début à la fin?
Alors, entre le moment où on lance le projet et la première représentation, en général, c'est 2 ans. Donc, c'est 2 ans où on essaye de trouver de l'argent pour monter le spectacle, donc auprès d'abord de ce qu'on appelle les subventionneurs, donc en l'occurrence, ville de Saint-Étienne, département de la Loire, région Auvergne-Rhône-Alpes, essayer de trouver des théâtres qui vont accueillir le spectacle, parce que le but, c'est quand même de le jouer, de le présenter à un maximum de personnes. Et pendant ces 2 ans, il y a tout un travail de réflexion sur comment faire les décors, réunir l'équipe, faire les auditions pour avoir les comédiens qui vont l'interpréter. Et ensuite, il y a la toute dernière ligne droite, qui est le travail de répétition. Et là, pour le coup, sur ce spectacle, ça a été 5 semaines. Voilà, donc 5 semaines où on a tout écrit, aussi bien le texte que créé les vidéos, les lumières, les musiques, et ce qui était un peu court. Voilà, on a vraiment dû cravacher pour être là à temps. Et malheureusement, il y a de moins en moins de temps de répétition dans les spectacles de théâtre ou de danse, parce qu'il y a de moins en moins d'argent dans la culture.
Et vous travaillez sur un autre projet, là, ou...
Ouais, là, je travaille, du coup, sur plusieurs projets. Donc, un qui est autour de ce spectacle, créer un journal télévisé qui se passerait en 2100. Journal télévisé dont les reportages vont être écrits par des collégiens du département de la Loire et présentés également, donc sur fond vert, etc., par des collégiens. Donc comment les jeunes peuvent réfléchir au futur, quoi. Donc j'ai ça comme projet. J'en ai un autre qui est la création d'un spectacle qui joue directement dans les salles de classe autour d'Aaron Schwartz. Aaron Schwartz, c'était un jeune activiste d'Internet qui a volé des documents scientifiques, donc des thèses, des articles universitaires qui étaient payants. Et lui, il s'est dit qu'il fallait que la connaissance soit gratuite et disponible pour tout le monde. Donc, il les a piratés et il les a remis en ligne gratuitement. Et donc, c'est un spectacle sur la vie de ce jeune homme. Donc, c'est ça, un peu mes projets du moment. Il y a Scarlett et Novak qui continuent de jouer et qui va partir en tournée en janvier et février, donc dans le Var. Donc à Draguignan, à Grenoble, à Lyon. J'espère que ça pourra encore jouer l'année prochaine. Donc une activité bien dense.
Ça fait quand même pas mal de projets.
Oui. Et le problème, c'est que les journées font que 24 heures. Mais c'est bien, parce qu'il y a plein de gens dans mon métier qui n'ont pas de travail et qui galèrent beaucoup, Donc c'est... Donc quand le travail arrive, ça fait toujours plaisir, quoi.
Avez-vous une pièce de théâtre que vous aimez le plus, que vous avez créée?
Alors je crois que c'est la première que j'ai créée, quel petit truc sentimental, un peu du premier bébé, du premier enfant. Et donc c'était la pièce dont je vous parlais tout à l'heure, Débris, de Denis Kelly. Comment les images influencent l'imaginaire des ados, parce que c'est un peu sur ce spectacle que j'ai... créer ce que j'appelle ma grammaire scénique, c'est-à-dire comment utiliser de la vidéo, du son, en même temps, quoi. C'est un peu là où j'ai créé un peu mon langage de metteur en scène, donc j'ai toujours une affection pour ce spectacle, quoi.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. À vous.